Bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez bien? Moi aussi. Je vais d'abord commencer par rendre gloire à Dieu, parce que Stéphane m'a conduit à Chartres cette semaine, parce que j'avais ce qu'on appelle un TEP scan. Un TEP scan, c'est un contrôle dans une espèce d'appareil, on vous couche là-dedans. Mais avant de vous coucher dans cet appareil, vous devez passer une heure dans une salle protégée, parce que c'est très radioactif. Ils m'ont injecté un produit qui doit aller dans tout mon corps, et c'est un produit radioactif. Il ne faut pas que j'ai des contacts avec les enfants pendant 48 heures, ni avec les femmes enceintes, parce que c'est dangereux. Et c'est air intense, c'est fatigant. Puis après, on vous met dans le truc, et puis ça vous passe autour, ça vous fait des photos. Et puis, il faut attendre le lendemain pour que le cancérologue vous dise de quoi il en retourne. Elle me dit, monsieur Janton, ça fait 18 mois que vous êtes en totale rémission. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, il y a donc 18 mois déjà, vous rendez compte, ça passe le temps, 18 mois que ce cancer a disparu, gloire à Dieu. Et donc elle me dit, je vous revois l'année prochaine, voilà, donc l'année prochaine. Elle me dit, vous ne voulez pas aller le faire à Toulouse cet examen? Je dis, non, une équipe qui gagne, je ne quitte pas. Moi, je ne suis pas le genre à quitter une équipe qui gagne. Et vous? Donc voilà, et évidemment, je vais voir une cancérologue ici à Toulouse tous les 3 mois, parce que c'est obligatoire, c'est normal. Vous savez qu'on cotise pour la sécurité sociale, et la sécurité sociale prend en charge tous les frais, et ça coûte très cher les examens, et tout ce qu'ils ont fait pour la chimio, la radiothérapie, tout ça, ça coûte une fortune. Et après, ils ne veulent pas que ça parte dans la nature comme ça, donc ils contrôlent pour voir si c'est toujours en ordre. Et je trouve que vraiment, on vit dans un bon pays. On peut remercier Dieu pour ce bon pays de France, et pour vous, que ça double. Hein, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Je vois là-bas, Stéphane était avec moi, il y a vraiment des gens dans un état, c'est terrible. Donc on est arrivé là-bas avec des boîtes de chocolat, avec du champagne pour tout le service, ils étaient contents. Ah, oh, c'est gentil. Enfin voilà, c'était bien, ça fait plaisir. Il y avait des nouveaux, des gens qui ne connaissaient pas, non, on a entendu parler de vous, évidemment. Voilà, alors je voulais rendre gloire à Dieu d'abord pour ça, parce que quand on vient pour louer Dieu dans le culte, ben, c'est pas simplement merci Seigneur parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, parce que la vie coule comme une chanson, non, c'est pour les choses, beaucoup, enfin, en tout cas pour moi, bien sûr c'est bien que la vie coule comme une chanson, mais voilà. Vous avez vu au fait que le fils de Sheila s'est suicidé, c'est terrible ça, c'est terrible, à 42 ans je crois. Que Dieu bénisse sa pauvre maman et nous ferons ce que nous avons à faire, vous connaissez. 1 Corinthiens 15, 29. C'est terrible, des gens qui auraient tout pour bien faire et puis qui. L'argent, la beauté, la gloire, mais bon. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même un petit peu. Mais, hein, si vous trouvez vraiment que l'argent ne fait pas votre bonheur, je vais 2 mois, je me débrouillerai. Non, mais quand même, c'est vrai, c'est. Si on n'a pas Jésus dans notre vie. Je ne sais pas comment ils font les gens. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 6, 7. C'est donc la suite de notre étude. C'est une étude, mais c'est aussi un culte. Vous savez, chez nous, on n'est pas tenu par des rites ou des traditions religieuses. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 6, 7. On va dire juste à celui qui nous aime, j'oublie la moitié du verset parce qu'on a déjà étudié le reste, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de prêtres, un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ouh. Là, nous commençons à être cités. Jusqu'alors, Jésus parlait de lui, Jean parlait aussi de lui, mais là, nous sommes cités. Il a fait de nous un royaume, c'est-à-dire des Kohanim. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Kohanim. Les Kohanim sont des Kohen, des prêtres. des sacrificateurs dans l'autre version. C'est-à-dire que nous sommes des gens dédiés au service du temple. Des gens qui sont dévoués au service du temple. Il y a toujours un temple, ici-bas. C'est notre corps et le temple du Saint-Esprit. Mais nous sommes membres du corps de Christ. Donc, je ne peux pas dire je suis le temple à moi tout seul. Mais quand nous sommes réunis, nous sommes un temple local, etc. Nous devons être au service du temple, c'est être au service des frères et sœurs en qui Dieu vit. Vous comprenez cela, mes frères? C'est être au service des frères et sœurs. Donc c'est la vie de l'Église, c'est la vie communautaire. Et dévoué. Cohen, en fait, c'est pas un nom, c'est devenu un nom. Vous avez des juifs qui s'appellent Cohen maintenant. Mais Cohen, c'est un titre qui a été conféré à Aaron, et le frère de Moïse, qui était, lui, de la tribu de Lévi. C'est-à-dire que bientôt, on va recevoir le prophète Lévi, on se réjouit, on prie pour son visa, ça fera des petits problèmes, il va l'avoir. Un Cohen, c'est un membre du clergé hébreu. Un Cohen agissait toujours sous l'autorité d'un Cohen Gadol, c'est-à-dire d'un grand prêtre. Il n'agissait pas tout seul. Sauf Aaron, qui, lui, le premier, grand, était prêtre, mais grand prêtre tout de suite. Il était mis grand prêtre tout de suite. Vous savez que depuis que le second temple a été détruit, quelque temps après la venue de Jésus, vous savez, vous connaissez quand même l'histoire, ça s'est passé en 70, les Juifs ne peuvent plus offrir de sacrifices dans le temple, puisqu'il n'y a plus de temple. Maintenant, ils sont réduits à faire ce que Osée 14, 3 dit, je vais vous le lire, Osée 14, 3, il est dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, en effet tu as trébuché par ta faute, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil, nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Voilà, ils ont interprété ce texte en disant, eh bien, dans les synagogues, nous apportons la Torah, vous savez, ils portent le Pentateuque, pas que le Pentateuque, mais très souvent le Pentateuque, en tout cas au moins, et puis ils élèvent comme ça, et quelqu'un lit, n'est-ce pas, les textes sacrés, ils en sont réduits à ça, et le grand pardon, et voilà, ça n'est plus, ils ne peuvent plus offrir des sacrifices, puisque le temple était détruit. Mais vous savez pourquoi le temple était détruit? Parce que le grand sacrifice a eu lieu, c'est celui de Jésus. Jésus a offert sa vie pour nous. Son corps a été maltraité, brisé, son sang a coulé. D'ailleurs, ce matin, nous allons encore prendre la Sainte Cène. Le pain représente son corps. C'est toujours du pain, mais ça représente son corps qui a été brisé pour nous. Voilà pourquoi on le rompt. Ensuite, son sang représente sa vie. Son sang a coulé sur la croix pour nous laver de tout péché. Voilà pourquoi on prend cela en mémoire de lui, en nous souvenant qu'il a fait tout ça pour nous et que, quand nous le faisons, nous proclamons, c'est un geste qui proclame que nous sommes en communion avec lui, mais aussi en communion les uns avec les autres. Et cela, nous avons l'ordre de le faire jusqu'à son retour. Quand nous faisons ça, nous proclamons qu'il revient. Amen. Ça, c'est en gros, je vous dis en gros. Mais maintenant, donc, eux, les Juifs, ils en sont que au point de pouvoir se réunir dans une assemblée, comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs ne font plus que ça. Ils se mettent dans une assemblée, puis ils lisent la parole de Dieu, puis ils étudient la parole de Dieu, puis voilà. Puis après, au revoir, frère, Dieu te bénisse. On ne sait pas ce qu'il a comme vie, on ne sait rien du tout, on ne connaît pas. Mais voilà, c'est plus que des synagogues. Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, et que oh là là, qu'on tombe pas dans ce genre de truc. Ce que Segond appelle dans la Bible que nous avons tous à peu près ici, eh bien, ce que Segond appelle le mystère de l'iniquité, dans la version de David Stern, vous savez, ce Nouveau Testament dont je vous parle depuis quelque temps, il l'appelle la séparation de la Torah, c'est-à-dire justement de ce que les Juifs montent et lisent dans la synagogue. Chouraki, lui, l'appelle le mystère de la non-Torah. Et le mystère de la non-Torah, ça veut dire le mystère du sans-Torah, sans loi, sans écriture. Et ça, le sans-loi par excellence, d'après l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, 7, c'est l'Antichrist. Mais Paul dit, il y a déjà des antichrists parmi nous, c'est-à-dire des gens qui sont sans loi. Alors, une dévolution sous la loi, on est sous la grâce. Je trouve que c'est un raccourci un petit peu idiot. Bien sûr que nous sommes sous la grâce, mais nous avons quand même des œuvres à faire, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. C'est comme dans un couple. Dans un couple, nous avons un prince merveilleux, le Seigneur, qui est venu jusqu'à nous, pour nous chercher, nous, une espèce de paysanne roturière. Et puis, il nous a appelés, il veut nous épouser. Alors nous, d'abord, ce qu'il nous a demandé, c'est de croire. Vous êtes d'accord ? Hein, je crois que c'est vrai. Il n'est pas en train de me faire une farce pour ensuite se marier avec ses copains en disant « Ah, la pauvre paysanne, regarde, la pauvre gourde, elle a cru que moi, le grand prince, j'allais l'épouser. » Non, il faut croire. Et ensuite, une fois qu'on a cru, eh bien, on commence à... Voilà, on fait attention quand il vient nous visiter, on s'habille un peu autrement. Enfin, vous voyez, la roturière commence à prendre des manières un petit peu différentes, elle change par amour, parce que ça commence à devenir de l'amour dans son cœur. Et même, voilà, pour le moment, on en est là parce qu'on n'est pas encore marié. On n'est que fiancé avec notre Seigneur, d'accord ? Donc, on a encore des efforts à faire pour pouvoir bien lui ressembler, être de son rang, et puis être digne du roi qui nous fait cette demande en mariage. Et nous ne pouvons pas être sans loi, parce qu'il y a des lois dans le royaume. Hein, la roturière, elle ne peut pas faire n'importe quoi maintenant qu'elle a été demandée en mariage par le roi. Elle ne se permet pas de faire n'importe quoi, elle fait tout ce qui plaît à son roi. Et son roi a certaines exigences, c'est tout à fait normal. Il doit tenir, il a un rang à tenir, et elle doit aussi tenir ce rang, il doit monter à son niveau. Le mot Torah signifie instruction, enseignement. Puis on a mis tout ça en disant, voilà, c'est la loi. Mais Torah, en réalité, ça veut dire instruction, enseignement. Alors, quand on dit Torah, c'est principalement le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse, mais c'est pas que ça. Alors, les Kohen d'aujourd'hui, ils montent, donc ils élèvent la Torah, et la loi dans les synagogues, et l'Antichrist sera un non-Torah, c'est-à-dire un sans-loi divine. Mais alors, sans-loi divine, il aura ses propres lois à lui, ça marchera aussi, hein, mais il n'y aura pas de Dieu. Il se fera Dieu à la place. Vous voyez ? Le monde, en ce moment, est en train de se préparer à cet état d'esprit, puisque de plus en plus, il abandonne la loi de Dieu. Dans ce monde, maintenant, on abandonne la loi de Dieu. Je vous parlais du fils de Sheila qui s'est suicidé. J'ai regardé une vidéo qui avait été faite lors d'une émission, je ne sais plus comment il s'appelle, le bonhomme, il est toujours en noir, je ne sais plus comment il s'appelle.
Thierry Ardisson.
Ah, voilà, Ardisson. Et il a interviewé justement ce garçon qui avait à l'époque 30 ans. Et lui disait, oui, alors vous avez écrit un livre, c'est formidable, tout ce que vous racontez, c'est quand même dramatique. Alors comme ça, vous êtes drogué, oui, bah oui, mais pas, je ne me suis pas drogué comme ça, je me suis drogué pour me détruire. Et alors, bah, disons, vous avez du courage de l'avouer, ah ouais, il disait bravo, bravo. Ensuite, après j'ai voulu me souiller, j'ai voulu me salir, j'étais dans les boîtes, et puis je me livrais aux hommes, aux femmes, je me mettais aux boîtes de Boulogne, ouais, tout ça. Quel monde de fou! Ouais, c'est formidable, vous l'écrivez, vous le dites et tout. C'est... Non, mais attends, il y a encore, je sais pas, moi, 20 ans, jamais personne, à part, je sais pas, enfin, on vit dans un monde sans loi, sans barrière, sans rien, sans... Et puis ce pauvre homme, ben voilà, bon. Le monde se débarrasse de plus en plus des lois de Dieu. Il est en train de se préparer à la venue de l'Antichrist qui sera un sans-Torah, un non-loi. Mais dans l'Église aussi se sépare des lois de Dieu. Il en est aujourd'hui comme au temps des juges. Je vais vous lire un texte dans Juges au chapitre 17. Et on en est au même point aujourd'hui. Dans l'Église, on en est au même point, dans le peuple de Dieu. Alors, je vais vous faire la lecture. Il est dit là, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, pas d'autorité. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Puis un bonhomme qui a rencontré un jeune homme, lui dit, bah, ah bon, tu t'appelles Lévi, bah, tu vas être mon prêtre, tu vas être mon Cohen. Puis il disait, bah, c'est super, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai un Lévite pour prêtre. Vous voyez ? Il s'illusionnait, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, comme ça, n'importe comment. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui, vous allez à l'université, vous ratez votre étude de médecine, bon, vous vous rabattez sur autre chose, la pharmacie. Si vous ratez là aussi, ben vous vous rabattez sur la théologie. Mais c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est pas du ras de voir. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont pas des croyants, mais simplement des gens qui ont raté leur étude de médecin ou leur étude d'autre chose. Ils se rabattent sur la théologie, ce qui vous fait une flopée de pasteurs qui sont même pas croyants. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on voit ensuite ces pasteurs se réunir, n'est-ce pas, en concile et voter des lois pour n'importe quoi, des trucs en dehors des lois de Dieu, des folies. Mais ils ont le titre de Cohen, ils ont le titre. Et ça dégénère, ça dégénère, ça dégénère. L'Église, comme dans le monde, se sépare de la Torah, se sépare de la loi de Dieu, ils font comme ils veulent. Il n'y a pas d'autorité véritablement, la parole de Dieu n'est plus une autorité. Dans les églises évangéliques, c'est pareil, il ne faut pas croire que c'est différent dans les églises évangéliques. Vous êtes dans une église, le pasteur vous plaît pas, il a dit un mot de travers, ou il a osé vous dire quelque chose voilà, qui ne vous plaît pas, ben hop, on crée une division, on part avec 5-6 personnes, une dizaine de personnes de l'église, et puis on les dirige, on les conduit, et puis on joue au pasteur, et on se proclame pasteur, et on n'a pas l'approbation divine, mais on a le titre, et puis ensuite on a la foi. Oui, mais la foi en quoi? En tout cas, pas la foi dans les Écritures. Pas la foi dans les Écritures. On s'imagine qu'on a la foi dans les Écritures, mais c'est pas ça. C'est tout faux, parce qu'il n'y a pas l'ordre établi par Dieu. C'est pas un ordre établi par Dieu, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Pour être au service du temple, pour être au service du corps de Christ, il faut avoir été appelé comme l'a été Aaron. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Pas seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament. Nul ne peut s'attribuer cela s'il n'a été appelé comme le fut Aaron. Et ordonné par une autorité supérieure comme Aaron l'a été. Il avait beau être le grand prêtre, il y avait un Moïse au-dessus. Vous voyez ? Et cet appel doit être reconnu par le peuple. Quel peuple? Ben, je ne crois pas qu'Aaron, il y avait juste sa femme, sa mère, sa belle-sœur, son beau-frère, ou sa sœur, ou sa maman, qui le reconnaissait. Non, le peuple reconnaît ton appel à cause des miracles. C'est toujours dans Exode 4, l'appel d'Aaron, dans Exode 4. Pourquoi est-ce que le peuple a reconnu que Moïse et Aaron? Pourquoi est-ce qu'ils ont reconnu? Parce qu'il y a eu des miracles, ils ont fait des prodiges devant eux. Ah! Et voilà, mon Dieu est avec eux. Donc, on va se dire à carreau, ils ne sont pas tenus à carreau longtemps, mais enfin quand même, ils avaient la crainte de Dieu, eux. Vous voyez? Et pas de miracle authentique, pas d'appel selon, comme celui d'Aaron. Vous pouvez venir me dire que vous avez été appelé par Dieu, il faut le prouver. Il faut le prouver. Chacun fait ce qui lui semble bon, et c'est le chaos. Le faiseur de chaos, il y a deux possibilités pour lui. Il se repent ou il meurt. Il n'y a pas de sentiment là. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Et l'ordre, c'est ça. Tu te repens ou tu meurs. L'Antichrist sera un non-Torah, un non-loi, séparé de la loi, pas de loi. Il fait comme il veut. Et dans le monde, et dans l'Église aujourd'hui, ben, on voit de plus en plus cet état d'esprit d'Antichrist s'installer, et les gens font comme ils veulent. Tout cela pour dire que nous, qui sommes des disciples selon l'ordre établi dans Luc 14, 33, vous savez pas ce que c'est, ben, vous irez chercher un avis, puis vous verrez, Luc 14, 33, pour nous qui sommes des disciples selon Luc 14, 33, nous sommes des prêtres, des Cohen, selon l'ordre d'Aaron. Portant en nous-mêmes l'enseignement de Dieu, nous sommes la lettre ouverte de Dieu, la lettre de Dieu ouverte pour les hommes. Tout le monde peut entendre et voir, vivre et se rendre compte que c'est différent. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous possédons en nous-mêmes l'évangile éternel et nous le prêchons, mais nous le démontrons aussi, pas seulement dans des actes de charité, mais aussi dans des actes miraculeux. Nous sommes la communauté du Messie, étant Messie nous-mêmes, selon 1 Jean 4, 17, tel est le Messie, tel nous sommes aussi. Mais tous les chrétiens ne peuvent pas dire ça, je suis désolé. Tous ceux qui se disent chrétiens ne peuvent pas dire ça. Nous sommes un royaume, un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, celui de Jésus qui vit en nous, et nous le démontrons. Si nous ne le démontrons pas, ben. Oui, moi je suis chirurgien. Bon, tiens, le bistouri démontre. Les juifs n'ont plus que leur synagogue et un rôle formel, cérémonial, de la montée de la Torah, c'est déjà pas mal, mais enfin bon, c'est pas tout à fait ce qui avait été dit au début. Mais à cause de leur faute, vous avez vu, l'autre jour, j'ai dit, le mot péché, ça vient d'un mot équestre, c'est une signification équestre, le faux pas du cheval, ils ont fait un faux pas, ce qui les a conduits à ne plus avoir de temple. Ce faux pas, vous savez ce que c'est. Je n'allais pas dire que je suis antisémite parce que je dis la vérité. Ils ont dit que ton sang retombe sur nous. Ben voilà. Le royaume que nous formons est dominé par un seul Seigneur qui se révèle pleinement dans le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, et aussi dans toute la Bible et dans le livre de Mormon, nous n'avons aucun doute là-dessus. Alors voilà ce que nous sommes, des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu. Pour Dieu, le Père de Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. C'est notre seule raison de vivre ici-bas. Aucune autre raison de vivre ici-bas. C'est de le servir, c'est de l'aimer, c'est d'aller de l'avant avec lui et pour sa gloire. Alors il est avec nous, accomplissant ce que nous disons par la foi, et toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Par la foi, nous agissons en son nom. Nous devons donc veiller à ne pas utiliser son nom en vain ou pour des choses vaines, mais parce que son nom, c'est important. Nous sommes mandatés, nous sommes envoyés pour agir en son nom, c'est-à-dire de sa part. Beaucoup de chrétiens demandent quelle est la volonté de Dieu et ils font jamais rien que de demander quelle est la volonté de Dieu, et comme Dieu leur dit pas, parce que Dieu a déjà dit qu'est-ce que c'est sa volonté, eh bien, ils demandent toujours quelle est la volonté de Dieu. Nous agissons en son nom, nous faisons les choses en son nom. Et il est derrière pour accomplir ce que nous disons par la foi. Notre foi étant basée sur les Écritures. Et nous devons donc bien veiller à connaître les Saintes Écritures. Vous avez des textes qui semblent se contredire. Vous avez ce texte qui dit « Celui qui pêche est du diable ». Puis vous avez celui qui dit qu'il n'a pas de péché ne connaît pas Dieu. Alors, qui a raison? Eh bien, c'est là que les ministères tranchent. C'est pourquoi Dieu a donné 5 ministères pour enseigner la parole de Dieu. Parce que sinon, on lit ça, puis on est confus. Les ministères sont là pour dire « C'est ainsi dit le Seigneur. » Amen. Donc, l'Église a besoin de ministères. Il les faut absolument. Pas des Nicolaïtes, hein, des ministères. Parce que la foi vient de ce que nous comprenons des Saintes Écritures, mais quand il y a des textes comme ça qui semblent se contredire, on ne sait plus. On ne sait plus. Notre vie n'est pas une vie normale. Un, nous savons par les Écritures que quand Jésus a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui, Galates 2:20. On parlait l'autre jour de la quatrième dimension. Quand Christ était crucifié, j'étais crucifié avec lui. Vous y étiez aussi. Il y a 2000 ans. Et quand Jésus était crucifié, c'était juste la matérialisation de la chose qui avait été faite avant la fondation du monde. Parce qu'il était immolé avant la fondation du monde. Et quand il était immolé avant la fondation du monde, nous étions déjà en lui. Vous avez cette sorte de foi? Nous sommes morts avec Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Colossiens 2, 10. Nous avons été ensevelis avec lui. Romains chapitre 6, verset 4. Colossiens chapitre 2, verset 12. Et le baptême, c'est l'image de cet ensevelissement. C'est que ça. Nous sommes plongés dans le tombeau. Si nous y restons dans l'eau, nous mourrons. Et nous en sortons en nouveauté de vie. Nous démontrons par là notre foi que nous avons été ensevelis en Christ. Avec Christ. Tout cela, ça s'est réellement produit dans cette fameuse quatrième dimension, dans la dimension de Dieu. Et nous avons à y croire, et ensuite à agir en conséquence, hein, comme la petite roturière qui croit d'abord ce que dit le maître, puis ensuite elle conforme sa vie. Quand Jésus est sorti du tombeau, nous sommes ressuscités avec lui. Vous vous en souvenez? Non, mais moi je le crois. Si c'est écrit, je le crois. C'est écrit dans Colossiens 3, 1, Romains 6, 4, 5. Vous prenez des notes ou vous réécouterez la prédication après. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ Il nous a ressuscités ensemble en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 5, 6. Donc c'est déjà fait. Quand Jésus est retourné sur son trône et qu'il s'est assis à la droite du Père, Marc 16, 9, eh bien, il nous a fait asseoir avec lui en même temps ensemble dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 6. C'est fait. C'est fait. C'est déjà fait. Nous sommes dans la vraie dimension, c'est-à-dire dans les lieux célestes assis en Jésus-Christ, dans une dimension divine. Ici-bas, nous sommes une nouvelle création, c'est-à-dire que depuis que Ève a été créée, Dieu n'a plus rien créé. À partir du moment où Christ est venu, il a fait de nous, ses appelés, une nouvelle création. Nous ne sommes pas comme les autres créatures humaines sur cette terre. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, Éphésiens 2, 10. Par Jésus-Christ, Dieu a fait ce que nous sommes, une nouvelle créature. Imaginez, depuis que Ève a créé, Dieu n'a plus créé. Et quand Jésus-Christ est venu, il a créé quelque chose de nouveau, nous. Est-ce que vous avez cette sorte de foi? C'est cette sorte de foi que vous devez avoir. Sinon, ce n'est pas la vraie foi. C'est juste une espèce d'illusion. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 15, 17. Dans d'autres versions, un peu plus pointilleuses et presque timorées, ils disent « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Ce n'est pas complètement faux parce que c'est vrai que c'est en train de devenir nouveau. Nous avons un chemin à parcourir. D'accord ? Nous nous sommes donc approché de Christ et nous avons retrouvé notre identité divine que Adam et Ève avaient perdue dans le jardin. Dieu nous a donné sa vie, sa nature, quand on dit sa vie, c'est ça, son amour, sa foi, parce que nous devons avoir la foi de Jésus, pas simplement la foi de Michel Gendron, ou la foi d'Osborne, ou la foi de je ne sais pas, non, ou la foi de Jésus. Nous avons reçu son esprit, sa puissance, son autorité, pour faire quoi? Pour lier ou délier. Pour pardonner ou pas. Les péchés que vous retiendrez seront retenus. Qui fait ça? Personne n'ose faire ça. Pourquoi? À cause des sentiments. Ah non, il faut bénir nos ennemis, il faut être gentil avec eux, ils ne se rendent pas compte. Bien sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'ils vous font. Une fois, deux fois, trois fois, après, ils ont besoin d'être corrigés. Donc on a l'autorité pour les lier aussi. Par amour, mais il faut le faire. Nous sommes recréés et Jésus fait tout cela, a fait tout cela pour nous. Il l'a fait pour nous et s'il a vaincu, il a vaincu pour nous. Il n'avait pas d'autre besoin que de vaincre pour nous. Alors il attend que nous prenions connaissance de cela et que nous prenions conscience de cela afin de pouvoir vivre ça. Parce que si on n'en a pas connaissance, on ne peut pas le vivre. Et si on a connaissance simplement là-dedans, et que nous ne l'exprimions pas, que nous ne le démontrions pas, c'est que nous n'avons pas conscience vraiment. La conscience doit être réveillée. C'est ça le réveil de l'épouse. Et alors, avec cette conscience-là, nous pulvérisons ce qui s'oppose à l'avènement du Fils de Dieu. Nous pulvérisons ce qui s'oppose à l'avancement de son règne. Nous avons non seulement ce droit, mais ce devoir de pulvériser au nom de Jésus tout ce qui s'oppose à l'avancement du règne de Jésus, notre Dieu. C'est à nous de le faire. Jésus nous a dit que c'est à nous de le faire. Et nous le faisons en son nom, de sa part, parce qu'il nous en a donné l'autorité. Si quelqu'un s'oppose à vous, il s'oppose à celui qui vit en vous. Allez écouter ma prédication de vendredi passé, vous comprendrez mieux. Si quelqu'un s'oppose à vous, il s'oppose à celui qui vit en vous, donc cette personne qui s'oppose à vous est en danger. Parce que nous pouvons être miséricordieux, mais Dieu ne l'est pas tout le temps. Il l'est un moment, il est lent à la colère, mais quand ils sont en colère, ça pète bien. Hein? Bien sûr que nous devons bénir nos ennemis, mais quand ils sont en train de nous massacrer, bon, je suis désolé, mais mes frères et sœurs qui sont là-bas en Syrie, eh bien, il faudrait qu'ils m'écoutent un petit peu et qui se rendent compte qu'ils doivent combattre par la foi et lier leurs ennemis au nom de Jésus, pas pardonner. C'est des monstres, c'est des satans ces gens-là. Il faut que Dieu les punisse. Pas forcément qu'il les détruise, mais qu'il les punisse. Comme Paul, qui était un monstre de meurtre, Dieu l'a jeté par terre. Il dit, mais qu'est-ce que tu, Seigneur ? Il avait l'air malin, Paul, là. Hein, je suis Jésus que tu persécutes, voilà. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de persécuter Jésus en persécutant ces pauvres chrétiens qui sont là-bas. Mais est-ce qu'ils ont cet enseignement, ces chrétiens là-bas ? Je ne pense pas. Paul nous l'apprend. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous savez ce que c'est que la Bible ? La Bible, c'est la proclamation de notre émancipation. Totale ! Par Jésus-Christ. C'est la proclamation de notre émancipation. Quand les Noirs d'Afrique étaient en esclavage, un jour, il y a eu une proclamation d'émancipation. Ils étaient libres, il y en a plein qui ne savaient pas, hein. Ils continuaient à être esclaves, jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Alors là, ils pouvaient dire bye bye et s'en aller librement, parce que c'était la loi. Et là, aujourd'hui, c'est la loi. Nous ne sommes pas des sans-loi, nous sommes selon la loi de Dieu. Nous sommes libres de lier ou délier, de pardonner ou pas. Nous sommes libres. Pas seulement libres du péché, bien sûr. Mais pardonner quand il ne faut pas pardonner, c'est un faux pas. Ne pas pardonner quand il faut pardonner, c'est un faux pas. Donc il nous faut être conduits par le Saint-Esprit. Il ne faut pas agir dans la colère. Il faut agir selon Dieu et agir en son nom. Vous n'êtes plus esclave de rien ni de personne. C'est ça la chose qu'il faut que vous compreniez. Alors commandez au nom de Jésus et ceux qui s'opposent à vous se soumettent, se repentent. Laissez-leur un peu de temps, ou ils meurent. Dieu agit comme ça. Et il nous montre comment il faut faire. Non ?
Oui.
Parce que notre Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Regardez l'histoire de Marie à Aaron, grand prêtre devant l'Éternel. Commencez à se révolter contre Moïse. T'as pas freiné, hein? Oui, mais c'était sous la loi. Ah bon, parce que vous êtes plus sous la loi, vous êtes des hors-loi? Ah bon, vous êtes des hors-loi? Ah, ça, je comprends alors. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Et la Bible nous dit qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Frères et sœurs, votre esclavage est fini. Vous devez en prendre conscience. Notre prison est ouverte. Nous devons en prendre conscience. La liberté nous est accordée. Ésaïe 61, 1. Personne n'a le droit de dominer sur vous. Personne. Aucun démon. Et encore moins, aucun homme, juif soit-il. Voilà la foi. C'est une connaissance. La connaissance de ce qui est vrai. Pas de ce que nous imaginons sentimentalement. Ou de ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons est souvent menteur. C'est pourquoi on dit sentiment. Le triomphe de Jésus, c'est le nôtre. La victoire de Jésus, c'est la nôtre. Et le diable veut tenir l'église de Jésus-Christ, qui est vainqueur, dans un esclavage, dans la souffrance. Non, mais c'est quoi ça? C'est un menteur et nous lui disons. Et nous le condamnons au nom de Jésus. Et ceux qui veulent se ranger de son côté, ben, ils seront punis, puis voilà. On leur a donné le temps de se repentir. Nos ennemis ont eu suffisamment de temps pour se repentir, pour se rendre compte de leur folie. Alors, stop. Là, il y a la mort. Stop. Ils sont aussi vaincus que Satan l'est. Ils sont aussi vaincus que Satan est vaincu. La véritable communauté qui est l'église de Jésus-Christ ne peut pas être en esclavage sur cette terre, en exil sur cette terre. Non, elle doit prendre conscience que les portes de sa prison sont ouvertes et qu'elle peut sortir et qu'elle peut faire ce qu'elle veut au nom du Seigneur Jésus-Christ, toujours conformément aux Écritures. Toujours conformément aux Écritures. Mais pas avec des sentiments mielleux, distillés par des prêtres faux qui ont tellement peur qu'on leur prenne leur place qu'ils vous disent il faut aimer, il faut pardonner. Et c'est comme ça que l'Église catholique en vient à couvrir les pédophiles. Hein? Par amour. Et ils prennent le prêtre pédophile, il a
75 ans qui est là comme ça,
ils le mettent dans un autre endroit où il y a aussi les enfants, mais le vieux cochon, il continue. Ben c'est pas de l'amour ça, c'est de la bêtise et de la méchanceté. Eh bien nous ne devons pas être ni bêtes ni méchants, nous devons être juste selon les Écritures. Ce qui est faux, c'est faux. Ce qui nous tient en esclavage sont dans l'erreur du balai. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. Le pouvoir nous a été donné sur nos ennemis qui sont déjà vaincus. C'est ça être vainqueur, être plus que vainqueur. C'est qu'ils ont déjà été vaincus. Et nous allons démontrer qu'ils sont vaincus. C'est pour ça qu'il dit plus que vainqueur. Est-ce que vous allez supporter encore plus longtemps de rester assujetti à la domination de ceux qui ne vous aiment pas? Non. 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 Sortez de l'esclavage. Confessez que vous êtes vainqueur au nom de Jésus-Christ et démontrez-le. Démontrez-le. Tenez ferme sur ce que vous avez dit. Non, je ne suis pas un esclave. Non, personne ne peut dire ce que j'ai à faire ou ce que je n'ai pas à faire. Je ne flanche pas. Je tiens ferme sur ma confession de foi. Parce qu'il est fidèle, celui qui a promis. Hébreux, chapitre 10, verset 23. Mes frères et sœurs, chaque croyant peut devenir maître de l'ennemi d'un jour à l'autre. Simplement, il faut qu'il ait la connaissance qu'il peut l'être, et il faut qu'il ait conscience qu'il peut l'être, et il faut qu'il le fasse. En ressuscitant des morts, Jésus et nous, puisque nous étions en lui quand il est ressuscité, en ressuscitant des morts, Jésus et nous, laissons les ennemis vaincus pour l'éternité. Ils ont été vaincus là, et ils le sont pour l'éternité. Pourquoi est-ce qu'on leur laisse un espace? Non, faut pas. Ils ont eu un espace pendant le temps de se repentir. Maintenant, c'est fini. On est de combien là?
Le 9 juillet.
Le 9 juillet, je dis ça le 9 juillet 2017. La Bible nous l'apprend. Vous savez qui vous êtes? La Bible vous l'apprend. Vous êtes, nous sommes devenus membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 3, 30. Ceux qui s'opposent à Christ sont détruits par le souffle de sa bouche. Si nous sommes son corps, par notre bouche, par notre confession, nous avons le pouvoir de les détruire. Et ce qu'il fait, nous le faisons aussi. Jean chapitre 14, verset 12. Un jour, notre sœur Camélia était dans le désert en Algérie pendant la guerre avec deux ou trois pasteurs dans une voiture et roulait dans le désert et tout à coup il y a des Arabes qui sont arrivés avec des mitrailleuses. Ils voulaient les tuer. Camélia est sortie de la voiture et elle a parlé en langue dans la figure de ces Arabes. Les Arabes ont jeté leurs armes par terre et sont partis comme ça en courant dans le désert. Ensuite, Camélia est rentrée dans la voiture et elle dit « Roule !» Et l'homme a dit « Tu m'avais pas dit que tu parlais arabe. » Il dit, ah bon, je parlais arabe. Oui, tu as parlé arabe. Tu leur as dit que s'ils touchaient seulement un de ces enfants qui étaient dans la voiture, ils mourraient instantanément, eux et leur famille. Et ils ont eu peur, c'est pourquoi ils sont partis en courant. Elle a dû le dire en langue parce qu'elle ne l'aurait jamais dit en français. Pourquoi? C'est le sentiment. Nous avons donc la possibilité, si nous le voulons, de faire les mêmes œuvres que Jésus fait, et cela nous avons le droit et le pouvoir de le faire en son nom. La question est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Ou bien est-ce que vous voulez être une bande de sentimentaux qui acceptent, voilà, ben tiens, tu m'as déjà donné une trentaine de gifles, allez, deux, trois de plus, c'est pas grave, tu vas finir par comprendre, je prie pour toi. Il faut être pratique. On doit être pratique. Si un homme vient vers moi et me dit « J'ai faim, qu'est-ce que je vais faire ?»«
Ah, je vais prier pour toi. »
Non, je donne à manger du pain, je fais ce qu'il faut. La prière, dans ce cas-là, c'est pas très utile. Eh bien, il y a des cas où il faut agir plutôt que de prier. On a déjà assez prié, non? Jésus a été déjà frappé et en lui, nous l'avons été. Jésus a déjà été crucifié et nous l'avons été en lui. Nous ne voulons plus que cela nous arrive. Stop! Fini. Terminé. Que la méchanceté retombe sur les méchants. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Quand on raconte ce que Satan et ses sbires nous font, alors là, on est en train d'en parler, de se plaindre les uns les autres et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas en train de dire que nous sommes plus que vainqueurs. On se place comme des victimes. Et on en souffre. J'en ai souffert. J'en ai même fait un cancer. Je sais de quoi je parle. Et plusieurs d'ici aussi ont souffert terriblement. Et souffrent encore. Lorsque Jésus dit « Toutes choses sont possibles à celui qui croit », il veut dire que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Rien d'autre. Il dit ce qu'il veut dire. Il a fait de nous des maîtres, des Cohen, des prêtres. Nous exigeons donc, au nom de Jésus-Christ, que le diable nous rende ce qu'il nous a volé. Amen. Tout le monde dit Amen. Dites-le Amen. Mettez un peu de voix. Amen. Nous exigeons, nous ne prions pas Dieu qu'il le fasse. Nous commandons à l'ennemi de nous rendre ce qu'il nous a volé, au nom de Jésus-Christ. Jésus m'a montré jamais de la faiblesse, jamais. Voici, il dit, je viens sur les nuées, avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se réjouir? Non, ils vont se lamenter à cause de lui, à cause de ce qu'ils ont fait. Eh oui. Eh bien, il vaut mieux que nos ennemis soient punis maintenant pour qu'ils réalisent leur bêtise plutôt que d'attendre le jour où il vient. Parce que le jour où il viendra, ça sera trop tard. Donc, ce que nous faisons là encore, c'est toujours par amour. Alors que cela commence, vous allez voir ce que vous allez voir. Jésus est en train de venir voilé par la nuée, c'est-à-dire dans notre chair. Il est voilé dans notre chair. Voilé. Mais la brume commence à se dissiper. Les choses commencent à se révéler. Les choses commencent à être vues. Ça va se dissiper de plus en plus. Ils vont le voir. Vous allez voir la face de Jésus en voyant ma face. Vous allez voir la face de Jésus en voyant la face de ceux que vous avez persécutés. Vous là, les malades mentaux qui tuez, massacrez mes frères et sœurs partout dans les pays totalitaristes de l'islam fou, parce qu'il y a tous les islamistes ne sont pas lingots, mais je parle des malades là. Vous allez bientôt voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son nom c'est Jésus. Amen.
Amen.
Et vous allez le voir sur la face de ceux que vous persécutez. Et ce jour-là, c'est pourquoi je prie que vous soyez punis maintenant pour que vous vous repentiez. Et que, parce que le jour où vous allez le voir, quand il va revenir, oula, ça va être chaud pour vous. Et tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, ça va être chaud pour eux ce jour-là. Parce que la brume est en train de se dissiper. Jésus revient bientôt. Jésus, voilé dans notre chair, dit « À moi la vengeance et la rétribution ». N'est-ce pas ce qu'il dit? Bien sûr. C'est pas moi qui me venge. C'est pas vous. C'est lui. Et où est-ce qu'il est pour se venger? Ben en nous. Mais si nous ne sommes pas d'accord, ben il fait ce qu'on dit. Il n'a pas d'autre bouche que la vôtre. Il n'a pas d'autre main que les vôtres. Que voulez-vous? Ô ennemi du seul vrai Dieu, vous croyez que vous allez rester puni encore longtemps? Impuni encore longtemps? Non, 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 non. Bande de hiboux, d'oiseaux des ténèbres, vous êtes vaincus et vous allez devoir fléchir les genoux devant Dieu ou mourir. C'est oui et amen. Dieu ne va pas faire dans les sentiments. L'autre jour, je parlais avec une dame au secrétariat là-bas pour le TEPSCAN. Et puis elle me dit, je lui dis, est-ce que vous êtes croyante? Elle me dit non. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, vous savez, mon compagnon a une sclérose en plaques, etc., etc. Et je parlais, et elle me disait, quand je vois tous ces gens qui défilent, tous ces malades, moi je ne peux pas croire qu'il y a un Dieu. Puis s'il y a un Dieu, ben, il est méchant. Elle manque de connaissances. je lui ai donné mon site, je ne pouvais pas parler parce qu'elle avait du travail, mais elle a dit, je vais regarder ce que je pourrais vous écrire et tout. Enfin, on était avec Stéphane, c'était bien. Nous devons donner la connaissance aux gens de qui est Jésus, parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'on leur a prêché une espèce de Dieu sentimentaliste, dégoulinant de bons sentiments. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a un jour où il dira, c'est assez. Et ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est maintenant. Le temps de la grâce se termine, je le sais, parce qu'il vit en moi. Et témoigne à mon esprit que le temps de la grâce se termine. Amen. Merci Jésus de bénir ces choses que j'ai dites, que mes frères et sœurs puissent être fortifiés dans leur intelligence spirituelle pour comprendre et changer les choses qui ne vont pas dans leur façon de raisonner, pour bien comprendre quel est ton plan, que tu es bon, c'est vrai, mais que ta patience a des limites, et que le jour où tu te mets en colère, c'est terrible. Et nous voulons prévenir ça, afin que nos ennemis ne tombent pas sous ta colère, mais sous la colère de Jésus qui est le gracieux encore, et qui punit non pas pour punir méchamment, mais pour punir, pour avertir. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ceux qui se sont opposés à notre œuvre, ceux qui se sont opposés à nous, puissent recevoir en eux la chose qu'ils méritent. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, de les soutenir, de les fortifier dans l'épreuve qu'est la nôtre. De soutenir et de fortifier nos frères partout en Syrie, là-bas, ou dans ces pays où ils sont persécutés. De les soutenir et de les aider à comprendre ce que je dis là. Si quelqu'un m'entend dans ces pays, comprenez que c'est vrai, que vous n'avez pas à lutter avec la chair et le sang, mais comme des esprits, que vous n'avez pas à prendre des armes, des fusils ou des machettes, mais que vous avez à lutter dans l'esprit et à dire la parole de Dieu. Et démontrer que Dieu, par votre foi, démontrer que Dieu est vainqueur et que tous ces fous soient anéantis par le feu de sa bouche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Amen.